Bonjour à toutes et à tous, Didier Delattre sur IDFM pour un nouveau rendez-vous conte. Des histoires, des récits, des petits points de culture étonnants, ignorés, oubliés, qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes, et que je vous raconte en suivant un ordre alphabétique un peu aléatoire, au gré de l'actualité ou tout simplement de mes envies. Aujourd'hui, O. O comme Oléane. Oléane, jeune fille bien mystérieuse, née de mon imagination il y a une bonne vingtaine d'années. Oléane, étrange héroïne de ma nouvelle Train de Rennes, nouvelle qui a remporté le prix littéraire du Val d'Oise en l'an 2000, rendez-vous compte, et que vous pourriez retrouver dans mon recueil intitulé Les Contes de la Forge, publié à l'époque, mais aux éditions du Val-Hermeil. Mais ce recueil est actuellement épuisé. Oléane, muse d'un poète célèbre, aussi étrange et indéchiffrable qu'elle. Oléane, petite fille imaginaire d'une reine bien réelle, une reine au destin romantique qui a laissé sa trace dans la ville de Saint-Leu-la-Forêt, une reine mère du dernier empereur et même du dernier souverain français. Oléane, qui n'a jamais existé et qui est pourtant la première voyageuse à descendre en gare de Saint-Leu d'un train qui n'a jamais existé. Non plus, mais un train qui aurait dû exister si un projet étonnant, ignoré, oublié, de la mairie de Paris s'était concrétisé à la fin du XIXe siècle. Alors, avant de vous embarquer à bord de cette aventure, dédicace spéciale aux élèves de la classe de première 2 du lycée Notre-Dame de Bury de Margency et à leur professeur d'histoire, M. Charles Novak, à la demande duquel j'ai organisé la semaine dernière une visite de la ville de Saint-Leu sur un thème de leur programme d'histoire, la Restauration et le Second Empire. Allez, en voiture, en route à bord de ce train de Rennes. Le dimanche 23 mai 1873, le train en provenance de Paris s'arrêta à 10h25 précise en gare de Saint-Leu-la-Forêt. Une jeune femme descendit du troisième wagon, seul. Le chef de gare la regarda avec stupéfaction. Depuis 3 ans que la ligne avait été ouverte, elle était la première voyageuse à faire halte à cette heure-là dans la station. Enfin, la première voyageuse vivante, se dit l'homme, tout en agitant son fanal rouge vers l'avant du convoi. Depuis la fin 1871, le projet de gigantesque cimetière périphérique était devenu réalité. L'idée remontait à plus d'un quart de siècle déjà. Devant l'engorgement des cimetières parisiens, et plus encore en raison du prix exorbitant du terrain intramuros, la municipalité de la capitale avait décidé d'inhumer ses morts à la campagne. Le site choisi fut celui de Méry-sur-Oise. Plus de 800 hectares furent achetés et la très puissante Compagnie du Nord obtint la concession du chemin de fer. En quelques mois, la ligne Paris-Saint-Leu-Méry fut tracée. Chaque jour désormais, la centaine de morts parisiens de la veille étaient convoyés vers leur dernière demeure par le train de 10h25. La plus gigantesque nécropole de l'histoire était née et prospérait à quelques kilomètres de Saint-Leu à Méry. Oh, bien sûr, nul règlement n'interdisait le transport des passagers ordinaires. Mais, par une superstition bien naturelle, personne n'avait jamais osé monter à bord de ce trop paisible convoi. Le chef de gare ne fut pas le seul à remarquer la jeune femme. L'instituteur du village, Monsieur André Giraudet, venu pour la livraison du courrier, se trouvait sur le quai. L'aide-mécanicien, en équilibre sur la plateforme au bout de la dernière voiture, jeta sans même descendre le paquet ficelé destiné aux habitants. Le maître d'école s'était proposé pour en assurer la réception chaque jour. Cela lui permettait de prendre connaissance au plus vite de son journal, le Libre Républicain, qui avait obtenu depuis peu le droit de reparaître. Âgé de 35 ans, Giraudet avait été nommé à Saint-Leu après les événements de la commune. il avait échappé de peu à la révocation et à la déportation pour son engagement auprès des insurgés. Profondément anticlérical, longtemps il refusa jusqu'au nom même de Saint-Leu-la-Forêt. Il utilisait celui de Clairefontaine, en usage sous la Convention dominée par Robespierre pendant la Révolution. Évoquant d'ailleurs la nouvelle spécificité de la région, il avait coutume de dire que l'administration l'avait envoyé à une étape seulement du cimetière. Contrairement à son habitude, ce matin-là, André ne coupa pas les ficelles du colis des postes pour prendre son journal et en commencer immédiatement la lecture. Le paquet dans les bras, il regarda la jeune femme s'avancer et passer devant lui en direction de la sortie. Il fut d'abord frappé par la grâce de son visage, une de ces sources de beauté qui changent le cours d'une vie. Quelques phrases de Stéphane Mallarmé, lues dans les pages littéraires du Républicain deux ou trois jours plus tôt, lui revinrent instantanément en mémoire. Sa chevelure se ploie avec la grâce des étoffes autour d'un visage qui illumine la nudité sanglante de ses lèvres. Ce poème, anecdote, s'intitulait « Le phénomène futur ». L'élégance de la demoiselle le surprit également. Assortie précisément à la couleur de ses yeux, sa robe de velours vert, aux reflets de bronze, était surmontée d'une cape de voyage souple et légère. André remarqua le fermoir qui maintenait cette cape à la hauteur du col. Il s'agissait d'une broche représentant une flamme derrière une grille. La marque de la mode parisienne alliée à une touche personnelle, visiblement. Transpirant et soupirant, l'énorme locomotive à vapeur, abreuvée par le long tuyau d'eau qui la surplombait, retrouvait lentement sa respiration normale. Et avec beaucoup de précautions, elle reprit son chemin, tirant derrière elle son étrange chargement de vie passée. Avec une assurance qui surprit Giraudet, la jeune femme emprunta l'avenue de la gare et remonta jusqu'à l'église. Sans regarder autour d'elle, sans jamais se retourner, elle semblait ne remarquer ni les passants ni les lieux. Pourtant, André était persuadé qu'elle venait à Saint-Leu pour la première fois. L'instituteur la suivait à quelques mètres. Ne devait-il pas porter le courrier au bureau de poste ? Enfin, en tout cas, c'était son prétexte. Parvenue devant l'église, la jeune femme marqua une hésitation, mais elle renonça à franchir le porche pour se diriger vers la droite et elle s'engagea dans la rue de Paris. L'activité se faisait plus importante. Aux abords de la place de la Forge, plusieurs voitures stationnaient sans ordre. Les charretiers interpellaient le maréchal Ferrand. Celui-ci était occupé à ferrer une jument dont le maître, un vigneron en tablier de cuir, proposait à la cantonade ses bouteilles sombres, tout juste sorties d'un tonneau d'eau fraîche. Et, dans une formule dont on ne savait s'il percevait le sens particulier, il criait qu'il ne voulait repartir qu'avec des cadavres de bouteilles. Le tombereau à ordures tentait de forcer le passage, conduit par le père Glandier, qui, les pieds enfoncés dans les immondices, braillait pour faire dégager. Et des voyageurs bruyants se dirigeaient vers l'auberge de la Croix-Blanche. L'auberge de la Croix-Blanche, rendue célèbre jusqu'à Paris par cette première halte depuis la capitale sur la ligne de chemin de fer. Soucieuse d'éviter la vaste salle qui pouvait contenir jusqu'à 600 personnes, la jeune et jolie voyageuse préféra le calme du jardin. Elle s'assit à une table de pierre, un peu à l'écart. Le serveur s'approcha, mais elle ne commanda rien. Et bien que ce ne fût pas l'usage, eh bien, le serveur n'insista pas. Intrigué, André se décida à l'aborder. C'était plutôt osé, mais il aurait par la suite trop regretté sa timidité. Il se présenta, André Giraudet, instituteur, et lui demanda la permission de s'asseoir en face d'elle. Eh bien, elle ne manifesta aucune surprise, aucune réprobation. À son tour, elle se nomma Oléane. L'énoncé de ce prénom fit naître en l'homme un trouble profond. Le phénomène futur était dédié par Stéphane Mallarmé à, justement, une certaine Oléane. André avait cru ce prénom inventé et la coïncidence ne pouvait être fortuite tout de même. Il ne se sentait pas encore prêt à lui poser la question. Et elle n'en dit pas davantage. « Savez-vous, mademoiselle, que vous êtes installée sur la table de Condé, qui, paraît-il, provient de notre château ?» Elle n'eut pour réponse qu'un sourire, où il décela une malicieuse ironie. « Me permettez-vous, mademoiselle, de vous interroger sur la raison de votre halte dans notre village ?» Après quelques secondes, elle répondit « Peut-être l'accomplissement de mon destin ?» Déconcerté et un peu honteux de son audace, il n'insista pas. « Mais vous vivez à Paris, n'est-ce pas ?»« Je viens d'y passer quelques mois, mais je ne vis vraiment nulle part, vous savez. » À la table voisine, un étudiant indécis lança un coup de dé avec l'air d'un homme qui s'apprête à jouer sa vie au hasard. À cet instant, un vieillard à la démarche malhabile s'avança vers eux péniblement. André reconnut Edmond Laborde. L'instituteur en fut particulièrement étonné. Le régisseur du domaine ne sortait jamais du parc du château. À la mort de sa maîtresse, la reine Hortense, en 1837, il n'avait alors que 33 ans, et nul n'aurait pu prétendre l'avoir rencontré depuis dans les rues du village, ni dans un quelconque autre lieu. Pour lui, en quelque sorte, le domaine était un tombeau avant l'heure. Vous êtes toujours bien sur IDFM en compagnie de la jeune et mystérieuse Oléane, descendue du train des morts en gare de Saint-Leu, un jour de printemps 1873. Mais avant de la retrouver et de la voir accomplir son destin, un mot sur la reine Hortense. Hortense Eugénie Cécile de Beauharnais, née en 1783 à Paris, est adoptée par Napoléon Bonaparte, qui épouse sa mère Joséphine, en 1796. En janvier 1802, Hortense se marie avec Louis Bonaparte, le frère cadet de Napoléon. Elle devient donc reine de Hollande entre 1806 et 1810, pendant le règne de Louis sur les Pays-Bas, à la volonté express de Napoléon. Avec Louis, son mari, Hortense a trois fils, dont le Benjamin, Charles-Louis-Napoléon, deviendra Napoléon III. Après la chute de Napoléon Ier, pendant la première restauration, Hortense flirte quelque temps avec le tsar Alexandre Ier de Russie, qu'elle fait venir à Saint-Leu, rendez-vous compte. C'est d'ailleurs à la demande de celui-ci que Louis XVIII l'a fait en 1814 duchesse de Saint-Leu. Par la suite, elle mènera une vie d'exil à Ronnenberg en Suisse où elle s'éteindra en 1837. Hortense composait également de la musique, notamment un chant intitulé « Partant pour la Syrie » sur des paroles d'Alexandre de Laborde vers 1807. Un chant qui s'inspire de la campagne d'Égypte du général Bonaparte en 1798 et qui fut l'hymne national officieux français joué lors de la plupart des cérémonies officielles sous le Second Empire de son fils Napoléon III. Rendez-vous compte. Vêtue de sa livrée désuète et néanmoins intacte, Edmond Laborde apparaissait véritablement incongru en ces lieux. Stupéfait, André Giraudet se leva et, lui cédant sa chaise, aida le vieillard à s'asseoir. Oléane se contenta de poser la main sur celle du régisseur. De toute évidence, ils n'avaient pas besoin de se parler. Ils demeurèrent en effet silencieux, attendant simplement que le vieil homme retrouve son souffle. André pouvait de moins en moins s'intéresser au monde extérieur. Dans son crâne résonnaient d'autres passages de son cher poète Mallarmé. Quand tous auront contemplé la noble créature, vestige de quelque époque déjà maudite, les poètes, en ces temps, sentant se rallumer leurs yeux éteints, s'achemineront vers leur lampe, le cerveau ivre un instant d'une gloire confuse, et dans l'oubli d'exister à une époque qui survit à la beauté. André se proposa pour les raccompagner au château, bien entendu. Le régisseur faillit refuser, mais son regard croisa celui d'Oléane et le vieillard ne dit rien. L'instituteur offrit son bras gauche à la jeune femme qui l'accepta. À la sortie de l'auberge, il fallut patienter. La foule se pressait, infranchissable, autour de la fontaine. Surmontée d'un moissonneur en bronze buvant à la gourde, la fontaine offrait en abondance l'une des meilleures eaux de l'Île-de-France. Le propriétaire de la source, Auguste Méry, remplissait une centaine de bouteilles, une par une. Il les chargeait ensuite dans des casiers solidement installés sur un attelage tiré par deux bœufs insensibles à la curiosité dont ils étaient l'objet. Quelques instants, André sentit contre lui le corps d'Oléane la blanche, d'Oléane la fluide. Le feu et la glace, la flamme et le fer entrèrent dans sa vie. Ils parvinrent enfin dans la rue du Prince de Condé. L'agitation et le bruit de la ville avaient cédé la place à un silence et un calme étranges. Edmond, le régisseur, ayant ouvert la haute grille aux pointes émoussées, André, pour la première fois, pénétra dans le domaine en compagnie d'Oléane. Il eut l'impression de quitter le monde présent pour un autre temps, pour une autre existence. C'était Oléane qui désormais le dirigeait. La pression des bras semblait s'être inversée. L'allée bordée par les hêtres centenaires lui semblait la nef d'une cathédrale de verdure. En lui, le grand orgue de la nature éternelle jouait en sourdine un hymne impérieux. Chacun de leurs pas les rapprochait d'un autel invisible où leur impossible union serait célébrée malgré tout. Lui, Giraudet, le communard, qui n'avait jamais prié, trouvait en son âme les paroles sacrées. En harmonie avec son exaltation céleste, elle se mit à murmurer « Quand les souffles de ses ancêtres veulent souffler la bougie, il dit « Pas encore ». Stupéfait, Giraudet s'écria « Mais vous connaissez les poèmes de Stéphane Mallarmé ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Et elle continua à réciter. Lui-même, à la fin, quand les bruits auront disparu, tirera une preuve de quelque chose de grand. Il insista, mais vous savez, ces textes sont confidentiels. Seuls quelques invités, initiés dans son appartement de la rue de Rome, ont eu l'occasion de les entendre de la bouche même du maître. Elle se tourna vers lui. Je connais Stéphane Mallarmé. La jeune muse, blanche, c'est moi. Et elle sortit de la poche de son manteau une feuille pliée en quatre. Il s'agissait du manuscrit d'un poème inédit, signé de la main du maître et dédicacé à la muse blanche de sa noire vie ingrate. Oléane expliqua. Je l'ai connu à Londres, il y a 10 ans, à mon arrivée d'Arenenberg, en Suisse, où j'ai passé mon enfance. Elle n'eut pas besoin d'en préciser davantage. André connaissait l'histoire locale, évidemment. Le village helvétique qu'elle venait de mentionner avait tenu lieu d'exil après la chute de l'Empire, à la belle-fille de Napoléon Ier, propriétaire du domaine de Saint-Leu, la reine Hortense. Il savait également que Mallarmé, l'auteur d'Iggy Tour, avait séjourné en 1862 dans la capitale britannique, avant de devenir professeur d'anglais au Collège impérial de Tournon. André s'étonna tout de même du fait que 10 ans plus tôt, Olean devait être fort jeune. Le vieux régisseur ouvrit avec beaucoup de peine la porte principale du château. Il s'effaça ensuite pour leur céder le passage. André éprouva jusqu'au bout des ongles la plus vive des émotions. On savait au village que cette porte n'avait pas été ouverte depuis exactement 40 ans. La mort de la reine Hortense avait entraîné l'agonie de sa royale demeure. Aucune lumière n'avait pénétré en ses murs depuis toutes ces années. Edmond, le régisseur, parvint miraculeusement à allumer un cierge intact reposant sur un guéridon à proximité immédiate de la porte. Le vieillard et la princesse s'éloignèrent dans la nuit de l'escalier. Dans le salon du rez-de-chaussée, André demeura seul de longues minutes à contempler, à la lumière de la lampe, le tableau de Jean-Marie Régnier, hommage à la reine Hortense. Le buste de la jeune princesse de Beauharnais occupait le centre de la toile, protégé comme dans un écrin par des massifs de fleurs épanouies. À sa droite, beaucoup plus petit, un Apollon assis sur un rocher jouait de la lyre en son honneur. Le visiteur sourit de l'inévitable aigle impérial qui surmontait la scène de ses ailes déployées. Mais cet aigle-là tenait en son bec un rameau d'olivier. La ressemblance incontestable entre Olean et la défunte souveraine, la reine Hortense, l'empêchait de détourner le regard. Il comprenait que le temps ne faisait rien à rien. Quand le cœur s'arrête, plus rien ne vieillit. Il sut que sa vie ne serait plus la même désormais. Olean ne lui avait rien dit. Il n'avait même pas demandé pourquoi elle venait au domaine, pourquoi le vieux régisseur était sorti de son tombeau prémortel pour aller la chercher. Il ne lui avait pas demandé pourquoi le vieillard et la jeune femme ne s'étaient rien demandé. Il savait désormais que, comme tous les autres hommes, il ne savait rien. Il savait juste qu'il vivait un moment de passage. Olean fit sa réapparition. Elle s'était changée. Elle portait maintenant une robe sans doute très ancienne. La gorge serrée, André admira la douceur des épaules nues, les rondeurs de la poitrine largement dévoilées. « Ma grand-mère aurait aimé que je choisisse cette robe pour aujourd'hui », déclara la jeune femme. Giraudet commençait à comprendre. Olean lui désigna la lampe. Vous soufflerez la bougie après. J'ai besoin de vous. Le noir absolu est nécessaire, vous comprenez ? Il s'agenouilla devant la belle étrangère, il mouilla sa main de ses larmes, puis il se retira. Derrière lui, Edmond, le régisseur, referma les lourdes portes à la peinture écaillée. André attendit sur un banc de marbre, tentant de cercler sa douleur pour ne pas y succomber. Olean avait traversé sa vie en quelques heures et laissait déjà en lui une brûlure éternelle. Alors, il songeait à Louis, le mari d'Hortense, trahi et abandonné. Quand il se sentit assez de courage, il ouvrit les portes du salon. Bien sûr, la pièce était vide. Seule source de lumière, la lampe était posée sur la cheminée. Alors, sans hésitation, Giraudet se rendit jusqu'au tableau de Régnier. Il ne fut pas long à retrouver Olean. Elle se tenait debout, derrière le dieu à la lyre, une main sur son épaule. André en fut satisfait. Ouais, c'était sa place. Les lèvres d'Oléane esquissaient un sourire dont il se savait le destinataire. Elle semblait le remercier, vacillant dans la flamme chétive de la lampe. Il souffla, anéanti, éteint, lui aussi, à jamais. Mallarmé avait-il donc tout prévu du mystère, quand il écrivait « Sur les cendres des astres, celle indivise de la famille était le pauvre personnage couché après avoir bu la goutte de néant qui manque à la mer. » Le néant parti reste le château de la pureté. Le lendemain matin, André se trouvait sur le quai de la gare, à 10h25 précise. Auparavant, il s'était rendu devant le parc du domaine afin de se persuader définitivement que le château d'Hortense avait bien été rasé depuis plusieurs décennies. Ce château où il s'était pourtant comme fiancé avec Oléane la veille. Le cœur en berne, il n'avait d'autre choix que l'obligation de respecter à la lettre les règles de sa vie ordinaire, de sa vie d'avant. Le dernier sourire d'Oléane brillait au fond de ses yeux, invisible aux profanes. Pour atténuer la douleur de l'absence, il se préoccupait d'une question à laquelle il n'attachait en réalité guère d'importance. La veille, parvenu au bout de l'avenue de la gare, Oléane avait hésité à entrer dans l'église. Pourquoi avait-elle renoncé à s'incliner devant les sarcophages de Louis, son grand-père, et devant celui vide de Charles Bonaparte, père de Napoléon et de Louis? Lorsque le train s'arrêta, à 10h25, Giraudet réceptionna, comme d'habitude, le paquet de la poste. Il savait qu'aucune jeune femme ne le distrairait plus jamais. Il coupa les liens du paquet, il déplia son journal. La une mentionnait les affrontements qui, la veille, à la Chambre des députés, avaient opposé les monarchistes et les libéraux. Le général MacMahon avait été élu chef de l'État. Président de la République, lui, MacMahon, le représentant royaliste de l'ordre moral. André, l'ancien communard, hocha la tête de mécontentement. Mais le souffle lui manqua soudain. Dans les pages intérieures de son journal à la rubrique « Faits divers », le titre d'un court article encadré avait attiré son regard. « Mystère dans le train ». Après une courte introduction, on pouvait lire les propos du chef mécanicien, celui-là même qui chaque matin lui jetait le paquet de courrier. Hier, au départ de Saint-Leu, je remontais tout le convoi pour rejoindre la locomotive. Disons que je n'aime pas beaucoup rester seul à l'arrière, vous me comprenez. Maintenant, je me suis habitué aux rangées de caisses bien alignées de chaque côté du couloir central. Mais imaginez ma surprise, dans le troisième wagon, l'un des cercueils était ouvert. Le couvercle était déplacé. Pourtant, je suis formel. Tous les cercueils étaient fermés au départ de Paris et personne n'est monté dans le wagon. D'ailleurs, Saint-Leu est le premier arrêt. Ainsi se termine notre rendez-vous compte consacré à la lettre O. O comme Oléane, jeune fille bien mystérieuse, née de mon imagination il y a déjà une vingtaine d'années. Oléane, étrange héroïne de ma nouvelle Train de Rennes qui a remporté le prix littéraire du Val d'Oise en l'an 2000 et que je dédicace donc à la classe de première 2 de M. Novak, classe à laquelle j'ai servi de guide la semaine dernière durant une visite historique de Saint-Leu-la-Forêt, ville impériale car très liée à la reine Hortense, mère de Napoléon III. Rendez-vous compte, une émission conçue, réalisée, présentée par Didier Delattre sur IDFM 98. À la semaine prochaine, même heure, même adresse. En attendant, voici sur le terrain l'émission qui laisse la parole aux Val-d'Oisiens et qui présente tous les événements de notre département sur IDFM Radio, évidemment.